Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Notre époque passe souvent pour particulièrement paisible. Vrai ou faux, Brice ?
Dans La part d'ange en nous, le fameux psychologue Steven Pinker tend à démontrer à l'aide d'une batterie de statistiques que l'humanité n'a jamais été aussi pacifique qu'aujourd'hui, que le spectre de la guerre s'éloigne chaque jour un peu plus. Ce disciple des Lumières est un optimiste qui croit au progrès de la raison. C'est ce qui explique sa myopie, écrivent ce mois-ci dans la revue Foreign Affairs Tanisha Fazal et Paul Post. Obama aussi était le tenant d'un tel optimisme. Souvenez-vous, dans son discours aux Nations Unies de 2016, il déclarait « Notre ordre international a obtenu un tel succès que nous tenons pour acquis que les grandes puissances ne se combattront plus dans des guerres mondiales, que la fin de la guerre froide a dissipé l'ombre de l'Armageddon nucléaire, les champs de bataille en Europe ont été remplacés par une union pacifique. » Eh bien, c'était faire peu de cas de la guerre qui continuait en Afghanistan, de la guerre civile qui faisait rage en Syrie, de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. L'idée que l'humanité a définitivement dépassé l'âge des guerres est basée, selon nos auteurs, sur des évaluations biaisées de ce que sont en réalité la guerre et la paix. Car les véritables indicateurs vont dans le sens contraire de cet optimisme, trop beau pour être vrai, toujours selon Fazal et Post. Qu'on meure moins aujourd'hui que dans les guerres d'autrefois est exact. Durant la Première Guerre mondiale, les armées en présence ont perdu en moyenne, tenez-vous bien, 5000 morts par jour. Et la Seconde Guerre mondiale a fait passer cette effroyable moyenne à 7000 tués par jour, tant civils que militaires. Mais enfin, la plupart des autres guerres connues dans l'histoire duraient beaucoup moins longtemps et causaient beaucoup moins de victimes. Par exemple, tenez, la guerre franco-prussienne de 1870 qui restait gravée dans les mémoires françaises comme une hécatombe. Elle a duré 6 mois. Elle a fait 200 000 morts. Les deux guerres mondiales sont donc exceptionnelles et tout rapporté à ces cas exceptionnels brouille la perspective. La réalité, c'est que la médecine du champ de bataille a fait des progrès considérables. Les médecins militaires évoquent à présent l'heure en or. C'est cette heure qui sépare la blessure reçue sur le champ de bataille de l'arrivée du blessé sur la table d'opération. Avec les moyens dont il dispose aujourd'hui, la probabilité de lui sauver la vie est considérable. D'ailleurs, le ratio de blessés sur les morts lors des conflits est longtemps resté stable. Il était de 3 blessés pour un mort. Les Américains l'estiment à présent à 10 blessés pour un mort, en ce qui concerne leurs propres forces combattantes.
Mais Brice, pour pouvoir faire bénéficier ces combattants de cette heure en or, il faut disposer de la suprématie aérienne.
Et oui, parce que les blessés doivent être évacués en hélicoptère. C'est le cas dans les guerres asymétriques que livrent les grandes puissances, comme par exemple la France au Mali. Mais cela ne saurait être le cas dans des conflits opposant entre elles des puissances militaires beaucoup plus sérieuses. Dans son livre « Only the Dead », l'historien Beer Bromauler indique que les guerres récentes peuvent en effet avoir été de faible intensité, mais que rien n'indique qu'il s'agit là d'une tendance durable. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. 15 ans, souvenez-vous, avant la... Enfin, vous vous souvenez pas parce que personne n'a lu ce bouquin, moi non plus. Mais 15 ans avant le déclenchement de la guerre de 14, il y a eu un livre qui a été un best-seller. Il était dû à un Polonais qui s'appelait Jan Gottlieb Bloch. Il était traduit dans pas mal de langues de plusieurs pays d'Europe. Et que ce que disait 15 ans avant la guerre de 14, ce monsieur Bloch, il estimait qu'à l'heure de l'artillerie moderne et de la mitrailleuse, les charges de cavalerie ou de fantassins baïonnettes au canon étaient irréalistes. Et il avait raison. Mais il en déduisait que la guerre entre puissances modernes était impossible et là il avait tort. Aujourd'hui, nous nous berçons de l'illusion que les capacités destructrices des armes nucléaires rendent leur emploi dans un conflit inconcevable et donc impossible. Les doctrines d'emploi, tant américaines que russes, obéissent en principe, au principe, en théorie, « no first use », pas de première frappe. Celles des autres puissances nucléaires, elles, sont beaucoup moins claires. Et l'asymétrie des forces conventionnelles entre plusieurs d'entre elles pourrait fort bien entraîner un pays vaincu, partiellement envahi, à utiliser en effet la bombe atomique s'il s'estimait menacé dans ses intérêts vitaux. Bref, il faut cesser de tout rapporter aux deux guerres mondiales pour se convaincre que nous vivrions dans une ère de paix durable. Les conflits par procuration entre grandes puissances n'ont jamais cessé. Et les dépenses militaires mondiales sont supérieures aujourd'hui en euros constants à ce qu'elles étaient durant la guerre froide. Conclusion, je la laisse à la juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Elle a dit un jour, il ne faut pas jeter son parapluie sous l'averse, sous prétexte qu'on n'est pas encore mouillé. Eh bien, il ne faut pas non plus se bercer de l'illusion que le temps des guerres est dépassé.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.